Comment ça va?
Je respire. L'air est pur, tout est calme. Je me détends.
Fais pour un.
Orange juice with that ice, madame. Thank you.
L'été comme jamais.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je pense ce matin à Adamsberg, le commissaire bourru des romans de Fred Vargas. À Phoebe, génie incompris de la série Friends. À Madame Bovary et Arsène Lupin. Et je me demande, que sont-ils devenus? Où sont-ils passés? Seraient-ils exactement les mêmes si je relisais le roman aujourd'hui? Si je replongeais aujourd'hui dans la série? Que deviennent les personnages de fiction? Alors le problème, c'est que cette question m'installe une chanson dans la tête qui n'a rien à voir. Maintenant, que deviennent les valses de Vienne? Dis-moi, qu'est-ce que t'as fait pendant ces années? Mais en m'y arrêtant une seconde, je me dis que le lien avec notre sujet n'est pas absurde, car il y a dans cette chanson de François Feldman une bonne dose de mélancolie face au temps qui nous file entre les doigts. Et c'est exactement ce que je ressens quand je pense à ces personnages. Ils me manquent. J'aimerais savoir ce qu'ils ont fait pendant ces années. Où sont-ils passés? Même ceux dont la mort est racontée, à la fin du roman ou du film, sont encore vivants dans mon esprit. Alors quelle est la nature du lien entre eux et nous? Et que raconte-t-il ce lien sur notre besoin d'histoire? C'est parti, que deviennent les personnages de fiction?
Dorothée Barba, sur France Inter.
Une rencontre entre un comédien et une écrivaine ce matin, ou peut-être entre un juge et une musicienne, je ne sais pas tellement. Bonjour Philippe Duclos.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes comédien, vous avez incarné le juge Roban pendant presque 15 ans dans la série Engrenage, diffusée sur Canal+. Alors si je dis que je suis pas sûre de recevoir ce matin l'acteur ou le magistrat, c'est parce que je viens de lire ce livre, Le juge et son fantôme, aux éditions des Équateurs. C'est un livre singulier, presque fantastique, dans lequel on découvre le journal intime du juge Roban, ses pensées, ses états d'âme après une perquisition, par exemple, ou une audition. Et vous y mêlez des réflexions d'acteurs, les pensées du comédien qui s'interroge sur la façon dont il doit jouer. Alors évidemment, on se pose une question, Philippe Duclos. Ce comédien dans le livre, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est aussi un personnage?
Non, c'est aussi un personnage, mais
ça
comme tout,
trop,
mais comme tous
trop.
Les personnages, je pense, Dandy ne dira pas le contraire. Un personnage, c'est toujours un mélange de fiction et de réalité. Enfin, si on va chercher des choses, évidemment, en soi. Là, c'est évident puisque c'est un acteur qui est censé jouer le rôle d'un juge d'instruction dans une série télévisée française.
Donc, mais alors, pourquoi tenez-vous à dire que c'est un personnage?
Ben, parce que sinon, je pouvais pas écrire. Parce qu'en fait, je voulais pas écrire un livre de souvenirs, tout simplement, parce que c'est, bon, c'est très bien, mais, moi, ça m'intéressait pas. Je voulais pas non plus raconter ma carrière parce que ça m'en... parler de moi, ça m'ennuie beaucoup. Enfin, surtout dans un livre. Donc, je n'ai pu véritablement accepter, parce que c'est une demande que m'a faite mon éditrice, ça qu'à partir du moment où je me suis dit, cet acteur, c'est comme un personnage de roman, voilà. Alors, évidemment, il aura beaucoup de moi, mais c'est pas moi.
Bonjour Blandine Rinquel.
Bonjour.
Bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes écrivaine et musicienne. Deux romans parus chez Fayard, L'abandon des prétentions et Le non-secret des choses. Vous avez également publié un livre d'entretien cette année intitulé Tout tremble aux presses universitaires de France. Et vous appartenez au groupe Catastrophe, dont on entendra tout à l'heure d'ailleurs un extrait du dernier album en fin d'émission. Cet album s'appelle Gong. C'est une comédie musicale et il est très plaisant à prononcer ce titre. Gong. C'est la romancière mais aussi la grande lectrice que j'invite ce matin, Blandine Rinquel. Vous arrive-t-il de croiser dans la rue des personnages de romans?
Absolument. Chaque jour, il y a une phrase de Georges Simenon qui dit qu'un personnage de roman, c'est n'importe qui croisé dans la rue qui va jusqu'au bout de lui-même. Et c'est tout à fait ce que j'éprouve. J'ai l'impression en permanence de presque de vouloir ou de forcer le personnage chez n'importe quelle personne que je croise.
Alors c'est la romancière qui croise des personnages et pas la lectrice?
Les deux. Non, les deux, je pense que c'est une forme de regard qui date de l'enfance. Hein. Le tout premier petit roman que j'ai écrit, je devais avoir, je sais pas, 10 ans, 8-10 ans. Et je me souviens que ça s'appelait « Nous les gens ». Et ça consistait à, ouais, n'est-ce pas? Ça consistait à juste à m'asseoir devant ma maison. J'avais installé, voilà, une petite chaise et je regardais les gens passer et j'essayais d'imaginer leurs pensées et leur vie et donc déjà de les traiter comme des personnages.
Et alors, si on parle des personnages de romans existants, qui auriez-vous croisé récemment dans la rue?
Martin Eden que j'ai l'impression de croiser assez souvent.
Il ressemble à quoi?
Il est fatigué, il allait très fatigué, il est à la fois jeune et fatigué, un peu poussiéreux, il fait des travaux dans la rue.
Je suis sûre que les auditeurs et auditrices ont de belles choses à nous dire sur ce sujet. La vie parallèle des personnages de fiction, ou en tout cas leur vie propre et notre relation avec eux. Rendez-vous donc à la page de L'été comme jamais sur le site de France Inter ou sur l'application France Inter. Il est même possible de nous laisser une note vocale qu'on diffusera dans l'émission. Et le standard, vous connaissez le numéro 01 45 24 7000. Nous aimons tant vos messages. Hier, l'émission était consacrée à Wikipédia et un auditeur qui porte le pseudonyme Galad38 nous a écrit ceci, je le cite. Sur Wikipédia, l'article amour existe en 160 langues et l'article haine en 76 langues. Quand je ne me sens pas bien, je vais vérifier ces nombres et ils me rendent plus heureux.
Derrière leur écran total, les gens se régalent. La ville est à cran. D'arrêt, visage pâle, c'est le carnaval. Mais où sont les enfants et les clairières d'opale dorénavant? Ah, que le cœur me fend, je me souviens mal du monde d'avant, très mal. J'étais où et quand pour le grand final? Le feu de Bengale. Derrière mon écran sans doute, mon écran total, à perdre les pédales. Je n'avais pas mes lunettes spéciales. J'étais où et quand, derrière mon écran, et je disais mal. Mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi. Sur quel pied le danser? Mon amour pour toi. Sur quel pied le danser? Mon amour pour toi. Mon amour pour toi. Pour toi. Sur quel pied le danser? Mon amour pour toi. Mon amour pour toi. Pour toi. Sur quel pied? Sur quel pied le danser? Le grand président, sanglot de reptile, s'adresse au son nom. Rien à l'abri dans son palais d'argile avec tous ses descendants. Normal, mais il pleut sur la ville et on le sait, l'argile mollit. Eh oui. Alors tous les civils, vous, sanglots de reptiles aux gémonies, c'est génial. On le linge sur la place publique, on piétine le pacte civique.
Écran total, c'était Feu Chatterton sur France Inter, L'été comme jamais, avec Philippe Duclos et Blandine Rinquel. L'un est comédien et a incarné pendant 15 ans un juge d'instruction incorruptible, solitaire et ô combien attachant, le juge Roban dans la série Engrenage. L'autre est écrivaine, autrice de deux romans remarquables, L'abandon des prétentions et Le nom secret des choses. Nous nous posons cette question vertigineuse. Que deviennent les personnages de fiction? Et un auditeur nous a laissé une note vocale sur l'application France Inter. On écoute Christophe.
Effectivement, il y a toujours cette nostalgie de savoir, ou plutôt de ne pas savoir ce que les personnages de fiction deviennent une fois que le dernier épisode de la dernière saison a été diffusé. Et à ce titre, il y a une série qui a vraiment fait un très très beau travail, c'est Six Feet Under, qui nous a montré la disparition, ou plutôt la mort, de chacun des personnages principaux. Et du coup, on se pose pas de questions par rapport à ce qu'ils sont devenus, à comment ils ont vécu, une fois que tout a été fini.
Très belle remarque de cet auditeur. Pardon pour le divulgachi au passage de la série Six Feet Under. C'est vrai que la question est intéressante. Blandine Rinkel, faudrait-il tuer tous les personnages pour éviter le manque du lecteur ou du spectateur?
Non, je crois pas. Il faudrait s'autoriser à continuer à écrire les épisodes qui nous manquent plutôt. Enfin, je sais que, enfin personnellement, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. En tous les cas, c'est en continuant. Alors pas forcément la vie des personnages à proprement parler, mais continuant des voix qui me manquaient, que je trouvais dans les livres. Et soudain, en refermant le livre, la voix nous manque. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire.
Donc en poursuivant le travail des autres d'abord.
Oui,
c'est exactement ce que nous écrit Laurent, un auditeur. C'est un problème, dit-il, de quitter les personnages de fiction qu'on a aimés ou admirés. On aimerait les faire vivre plus longtemps. Que pensez-vous, demande-t-il, des fanfics? Je ne connaissais pas les fanfictions écrites par des fans qui font vivre les personnages. C'est ce que vous faisiez finalement, Blandine Rinkel?
C'est un peu ça, sauf que c'était un peu moins pas les personnages directement, parce que j'ai l'impression que le personnage appartient tellement à celui qui l'a créé que je sais pas, je me serais pas tout à fait autorisée, mais oui, les voix, comme s'il y avait des voix qui, bon, en fait, comme un peu la radio, enfin, je veux dire, il y a des voix qui continuent même après la mort des gens à exister, et qu'est-ce qu'on fait de ces voix, et comment, si on continue à les entendre dans sa tête, comment est-ce qu'on continue à les faire vivre?
Philippe Duclos, c'est ce que vous faites dans ce livre, Le juge et son fantôme. Vous nous livrez le journal intime du juge Roban, ses pensées, vous dévoilez finalement les images hors champ, ce qu'on ne voit pas dans la série. C'est une manière aussi de prolonger le personnage.
D'abord, c'est une manière de travailler. En fait, tout est venu de là, c'est que quand est arrivée la saison 3, j'étais un peu débordé quand j'ai reçu le scénario par toutes les scènes que j'allais avoir à jouer. Donc je me suis dit, il faut que je m'invente absolument une méthode. Et comme j'ai toujours écrit pour travailler, je me suis dit, je vais écrire et je vais écrire la vie du personnage pour pas être perdu, si vous voulez. Donc au départ, c'est vraiment très très, c'est tout bête. Et ensuite, il se trouve que cette vie écrite, c'est amalgamé à la vie jouée, si je puis dire. Alors là, qu'est-ce qui ressort de tout ça? C'est à vous de me le dire, je sais plus. Parce que ça vient effectivement de mon journal de travail, ça. Je l'ai réécrit, bien sûr. C'est-à-dire, je me suis repenché sur le personnage. J'ai revécu, j'ai retraversé, j'ai revisionné aussi les épisodes, les scènes, etc. pour écrire ça.
Ce qui est saisissant, très émouvant quand on vous lit, c'est de voir effectivement se mêler les émotions du comédien et celles du personnage, le juge d'instruction. Que ressentiriez-vous, Philippe Duclos, si un fan de la série faisait comme ce qui vient d'être dit, écrire lui-même la suite, la vie du juge Roban? Est-ce que vous sentiriez dessaisi de quelque chose?
Oh non, je crois pas, parce que d'abord à ce moment-là, il faudrait réagir. Dès que quelqu'un lit un livre, il faut dire mais non, pas du tout, c'est pas ça mon livre, etc. Donc c'est la vie qui continue. Mais par contre, ce serait effectivement son affaire à lui, quoi.
Ça appartient à tout le monde.
Alors, ça appartient à tout le monde. Maintenant, la vie du personnage, il se trouve que c'est moi qui, quand même, qui l'ai porté sur mes épaules. Le plus, j'étais en première ligne, si vous voulez. Donc, effectivement, il est entièrement mêlé à, comme toujours un acteur, il est mêlé à mon corps, à ma façon de parler. J'en parle un petit peu à la fin, d'ailleurs. Ça m'amusait de... En repassant par mon cher Spinoza, il s'était expliqué, quoi. J'ai toujours cité comme si le personnage était effectivement expliqué à travers moi, dans ma façon de vivre aussi.
Il avait quelque chose à dire et c'est passé par vous.
Ouais, je pense.
On a envie de l'entendre, évidemment. Le juge Roban avec Isabelle.
Et toi, t'as des enfants? T'as une famille? Maison de campagne? Un hobby inavouable? Une maîtresse? Deux maîtresses?
Non, je suis divorcé, j'ai un grand-fils qui est donc un petit peu plus jeune qu'Arnaud. Mais j'ai absolument pas envie de parler de ça ce soir.
Mais tu m'as pas répondu tout à l'heure. Tu m'as rappelé?
Je m'en sentais ni le droit, ni le courage. puis je t'ai dit des choses pardonnables la dernière fois.
Mais je t'aimais, François. Je me suis pas servi de toi.
C'est étrange. Rien n'a changé.
Ouais.
Et tout est différent.
Anne Alvaro, la formidable Anne Alvaro dans le rôle d'Isabelle, ouais. Cet amour de jeunesse que François Roban retrouve des années plus tard. Ouais. Et cette scène des retrouvailles, ça fait partie de celle dont vous racontez les coulisses dans votre livre, Philippe Duclos. Qu'est-ce que vous avez compris sur le juge Roban, sur sa personnalité, en écrivant son journal intime?
Ah, en écrivant ce journal intime, bah c'était une façon de, comme je vous l'ai dit, c'était une méthode, c'est une façon en fait de traverser des situations. Parce que vous savez, la grosse différence avec le théâtre, c'est qu'au théâtre, bon, on a 2 mois de répétition, mettons, et voilà, donc on a le temps de se rencontrer. Et quand j'arrive le premier jour de répétition, je ne sais pas du tout ce que c'est que mon personnage, quoi. Je vais le découvrir en travaillant. Alors que le cinéma, c'est complètement différent. Quand je vais arriver le jour du tournage, je dois être quand même un peu
au courant.
Savoir ce que je dois faire, quitte à changer au dernier moment, hein. Donc tout ce travail de répétition qu'on fait pas au cinéma, bah d'une certaine manière c'est par l'écriture moi que je l'ai fait. C'est-à-dire l'écriture m'a mis en situation en fait de traverser des situations que j'allais jouer, c'est-à-dire de les éprouver et je savais pas d'ailleurs en faisant ça que j'étais en train d'écrire en même temps et que 10 ans après il y aurait un livre, ça c'était vraiment très très loin de moi.
Est-ce à dire, Blandine Rinquel, que l'on comprend ce que l'on pense, ce que l'on ressent au moment de l'écriture? Vous ressentez aussi ce que dit Philippe Duclos?
Oui. C'est en effet l'impression que c'est pas tout à fait un acte volontaire d'écrire. C'est comme si
automatique.
Oui, en fait, quelque chose doit être écrit. C'est plus inconscient que ça, quoi. Si on savait ce qu'on doit écrire avant de l'écrire, on n'écrirait jamais. Je crois que c'est Marguerite Duras qui dit ça, qui écrit ça d'ailleurs. mais surtout pour les personnages, en fait, les personnages qui comptent le plus. C'est pas ce dont on veut qui compte le plus. On se rend compte soudain qu'un personnage compte plus qu'un autre. Enfin, moi, ça m'est arrivé souvent de commencer des choses en croyant que tel personnage est le principal, et en fait de découvrir que c'est finalement le personnage secondaire qui va s'avérer le plus intéressant, parce que ça travaille l'inconscient, quelque chose se révèle. Et en lisant, j'ai lu le livre de Philippe Duclos, et ce qui m'a frappé, c'est le point auquel le comédien, donc le comédien personnage qui raconte,
qui n'est pas vous mais qui est un peu
qui n'est pas vous, n'est-ce pas, mais un peu quand même, se juge lui-même. Enfin, j'ai trouvé le trait de caractère assez fort.
Il est très dur avec lui-même.
Il est très dur avec lui-même, et j'ai trouvé ça drôle pour un juge.
Voilà. Y a-t-il des parallèles, Philippe Duclos, entre le métier d'acteur et le métier de juge d'instruction?
Ah oui, d'ailleurs j'essaie de les développer un peu dans le livre, dans une scène notamment qui est tout à fait vraie celle-ci, alors parce qu'il y a plein de choses vraies, mais ça est bourré.
Parfois ça arrive.
Où je rencontre une juge d'instruction, effectivement, voilà, j'ai rencontré une juge d'instruction qui m'a dit des choses tout à fait essentielles et qui m'ont, excusez-moi, qui m'ont fait... qui me ramenait beaucoup à la situation d'acteur, effectivement. Un juge d'instruction, il part, il se pose pas la question, il est pas dans une empathie avec la personne qu'il est en face de lui, il se pose la question avant tout, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé, il essaie de comprendre une situation, ça commence comme ça, mais ça c'est tout, un acteur procède exactement de la même manière.
Il y a une manière d'écouter, d'observer, de laisser toute sa place au silence aussi, dans les deux métiers.
Oui, c'est-à-dire de pas préjuger. C'est-à-dire de pas poser des jugements hâtifs sur la personne qui est en face, de la même manière qu'un acteur en face d'un rôle, effectivement, il faut surtout pas qu'il pose de jugement, il faut qu'il reste au maximum très ouvert, disponible à l'égard de son personnage.
Voilà ce que je lis dans votre livre, Philippe Duclos, le comédien qui apprend à connaître son personnage jour après jour. Il y aurait, écrivez-vous, comme 3 couches dans son regard. 1, l'activité. 2, le rêve. 3, la prédation.
Ouais.
C'est le juge Roban résumé en 3 mots, c'est magistral.
Ouais.
La prédation, vraiment.
Oui, ça aussi, bien sûr. Oui, parce qu'il n'est pas pur, il est incorruptible, mais il n'est pas si pur que ça. Je dirais, il se fait avoir.
Il fait quelques erreurs professionnelles, en effet.
Ah oui, il en fait beaucoup. Oui. Donc il y a un mélange, effectivement. Oui, tout à fait. Ce qu'il dit là.
Oui, j'ai raison.
Je suis d'accord.
Je suis assez d'accord avec moi-même. Est-ce que vous aimeriez parfois que le juge Roban pense autant à vous que vous pensez à lui, Philippe Duclos?
Oui, non, là c'est ce que je développe dans le livre, mais c'est évidemment c'est à la fois vrai, c'est de la blague, quoi, parce qu'on va pas demander un mais en même temps, oui, c'est vrai que le, on, enfin, sans mythifier l'acteur, hein, parce que vraiment, je suis pas comme ça, mais on donne beaucoup, parce qu'on donne beaucoup de soi-même, je dirais, voilà, un personnage, effectivement. Et donc, mais le personnage, lui, effectivement, c'est comme une bête, comme un petit enfant, quoi, il est à toute puissance. Comme disait Blandine tout à l'heure, il va au bout de lui-même, quoi, il est dans une espèce de toute puissance, et donc, il pense pas beaucoup à... J'ai l'impression qu'il pense pas beaucoup à l'acteur, non.
Y a-t-il un personnage de roman, peut-être que vous avez lu, Blandine Rinkel, dont vous aimeriez qu'il ou elle pense à vous autant que vous pensez à lui, à elle?
Y a les personnages principaux du roman Ada ou l'ardeur de Nabokov, Ada et Van, qui sont les personnages amoureux qui font preuve de l'amour le plus solaire, cruel et flamboyant que j'ai lu. Et donc oui, c'est un peu envie de que d'une manière ou d'une autre, ils pensent à moi.
Vous pensez à eux tous les jours?
En tous les cas, je pense à eux. Bah oui, je pense qu'ils ont vraiment infléchi ma manière d'aimer et de vivre, et que les personnages peuvent avoir cet effet-là aussi, d'exister si fort en soi qu'on peut plus tout à fait avoir les mêmes gestes et les mêmes paroles ensuite, après les avoir rencontrés. Mais comme ça arrive avec certaines personnes dans la vie réelle, certaines personnes qui sont tellement importantes pour soi qu'elles en deviennent des personnages aussi, et tout se confond.
Je pense à ce passage dans votre premier roman, L'abandon des prétentions. Une invisible mécanique se déclenche quand deux personnes se rencontrent pour la première fois. Sorte d'insidieuse distribution des rôles qui détermine l'avenir de la relation. Vous pensez vraiment, Blandine Rinkel, que nous avons un visage différent pour chacun, une façon distincte de nous comporter en fonction de chaque personne que l'on côtoie dans sa vie, famille, amis, collègues?
Je crois tout à fait. Je crois que ça dépend aussi du contexte. Il y a des personnes qu'on rencontre soudain dans tel contexte. Mmh. Et ça demande beaucoup de temps, de travail et d'effort pour se départir de la première manière dont on les a rencontrés. Et parfois, ça peut être frustrant parce qu'on...
On aimerait être quelqu'un d'autre.
Oui, où on rencontre des personnes, je sais pas, je pense par exemple aux personnes qu'on admire beaucoup. Il suffit qu'on les rencontre un peu mal, que la première phrase soit bégayante. On s'engouffre dans une sorte de relation qui est pas la bonne, quoi. Il y a quelque chose d'un peu fatal là-dedans.
Mais alors, vous me voyez venir, est-ce que nos relations avec les personnages de fiction sont du même ordre?
Sans doute.
Est-ce que eux se comportent différemment en fonction du lecteur, de la lectrice ou du spectateur?
Alors eux, sans doute non, puisqu'ils sont quand même assez figés dans l'œuvre. Mais sans doute qu'il y a des mauvais contextes, des mauvais moments pour rencontrer des personnages de romans, enfin des personnages qu'on ne rencontre pas en fait. Et peut-être que, oui, comme vous le disiez en introduction, il faut y revenir et on les rencontrera, on vivra différemment avec eux en y revenant.
Et la rencontre ne sera ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre.
Exactement.
Une auditrice nous a envoyé encore un message vocal.
Bonjour monsieur le juge Roban. Je vous appelle comme ça parce que pour moi vous êtes le juge Roban. Je vous ai croisé dans Paris il y a quelque temps. Et là l'enfant vous a vu et a eu envie de courir vers vous pour vous prendre dans les bras. L'enfant en moi. Et puis l'adulte d'un coup s'est ressaisi et s'est dit « Mais non ». Enfin, c'est l'acteur là que tu vois, c'est pas le juge Roban. Et donc, je suis pas venue vous voir pour pas vous importuner. Voilà, je trouvais que c'était juste une démonstration justement de cette fine limite entre l'acteur et le personnage.
Merci Léa pour ce message. Je m'adresse à Philippe Duclos et non pas au juge Roban. Très touché, évidemment. Dans ce livre, d'ailleurs, vous racontez que vous recevez du courrier adressé au juge Roban.
C'est une vraie lettre. J'ai demandé l'autorisation, bien sûr, à la personne qui m'avait envoyé. C'est une jeune fille dans la réalité qui écrit au personnage, quoi, et qui dit qui raconte effectivement qu'elle voulait une instruction, mais qu'elle trouvait ça trop difficile. Et puis elle décide d'abandonner le concours de l'ENM, quoi. Elle y croit pas. Et puis elle voit ce personnage et ça lui donne. Elle dit bon, c'est ça que je veux être dans la vraie vie, quoi. Enfin, juge d'instruction comme ça, et ça lui donne donc le courage de passer le concours et de le réussir, quoi. Donc c'est complètement... Et quand je suis allé à l'ENM, l'École nationale de la magistrature, j'y suis allé une ou deux fois, et j'ai rencontré plein d'étudiants, et il y a toute une génération, effectivement, c'est en rencontrant le juge Roban que leur vocation s'est déclenchée.
Un personnage de fiction peut susciter des vocations.
Oui,
si par hasard on s'interrogeait sur le pouvoir de la fiction...
C'est étonnant. oui, oui.
Bureau des légendes, c'est la même chose. Hein. Enfin, j'avais lu des articles à ce sujet, et qu'il y avait soudain une excitation en fait autour du métier d'espion, n'est-ce pas
et inversement, quand j'avais demandé à la juge d'instruction, j'ai rencontré ça, je raconte dans le livre, qu'est-ce qui est à l'origine de votre vocation. Elle m'a répondu, oh, bah, c'était les films américains que je voyais à la télé quand j'étais adolescente. Donc elle, c'est par la fiction. Que c'est la fiction aussi qui avait nourri son envie.
C'est très touchant. On entend d'ailleurs l'émotion de cette auditrice. C'est très touchant ce lien entre fiction et réalité. Mais n'est-ce pas aussi un peu effrayant, Philippe Duclos, cette responsabilité que ça vous met sur les épaules de susciter des vocations de magistrats et de...
Bah écoutez, après, les gens, ils sont grands quand même.
Si d'ailleurs, l'adulte s'est retenue de vous prendre dans ses bras.
Oh bah c'est dommage, parce que j'aurais été très touché vraiment qu'elle vienne me parler, comme ça arrive souvent d'ailleurs. Non, après, un personnage de fiction, bon, après, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez vous identifier complètement à Madame Bovary et finir comme elle, vous empoisonner à l'arsenic, c'est votre problème quand même. C'est pas sa faute à elle, complètement, quoi.
Enfin, Blandine Rinquel.
Oui, moi, ce qui me paraît peut-être plus dangereux, c'est au sens inverse, de plaquer un personnage de fiction sur quelqu'un. Moi, ça m'arrive assez souvent, lisant énormément, ça m'arrive souvent de me comporter avec des personnes comme si elles étaient des personnages de fiction et du coup de les déposséder un peu de leur histoire.
Je crois qu'il nous faut un exemple. Voyez,
je sais pas, j'ai pas d'exemple précis ni récent en tête, mais ça m'arrive avec des personnes que je rencontre en fait de soudain me dire, de soudain entrevoir une histoire que je crois être la sienne et du coup de lui imposer un peu dans mon regard, dans ma façon de lui parler en fait un personnage que la personne n'est pas. Et je trouve qu'il y a un danger à ça, parce que c'est un peu aliénant en fait pour les autres.
Je suis pas du tout le juge Robin dans la vie.
Non, en l'occurrence, je le connais pas, donc ça nous sauve.
Voilà qui devait être dit. My heart is
Roger Moore, a flaming star, will never stop.
C'était Rover sur France Inter, Roger Moore.
France Inter, l'été comme jamais.
Ça, c'est une buse, ça. Tu vois, elle tourne autour. Elle vient me chourer, mes lapins.
Écoute, visiblement, t'es très marqué par ton rôle dans Le Déserteur. Et c'est normal, parce que c'est un rôle, c'est très physique, c'est très fort.
J'ai jamais vécu ça avant, jamais.
Ouais, je sais. Mais là, ils t'attendent pour le tournage. Tu sais, le film où tu dois jouer un banquier.
Je sais, André, mais... Franchement, là, je peux pas, quoi. Je peux pas enchaîner comme ça. Tu comprends? J'ai passé 6 mois dans la forêt. Je me suis dépouillé de tout. Ça m'a fait un bien, mais... Je suis allé à l'os. À l'os de l'humain, tu comprends?
Mmh.
Alors l'idée de me retrouver là, dans une tour, dans la défense, avec le bruit, les gens, la lumière... On peut pas temporiser.
Ben, hein. Jean, non, on peut pas, là. Enfin, tu vois, on les a déjà beaucoup fait attendre.
Ouais.
Non, mais t'as même pas signé ton contrat, en plus.
Si, je l'ai signé, hein.
T'as signé Émile Berthier.
Ah oui. Ah oui.
C'est ton personnage, Jean.
Oui,
c'est
oui.
Pas toi.
Oui, je sais, oui.
Mais tu sais, déjà, si t'enlèves ton costume, ça va aller beaucoup mieux.
Camille Cotin et Jean Dujardin dans la série 10% sur France 2. Nous parlons des personnages de fiction ce matin dans L'été comme jamais. Et de cette manière qu'on a de les imaginer dans la vraie vie. Avec Philippe Duclos qui a incarné pendant 15 ans le juge Roban dans la série Engrenage. Et avec la romancière Blandine Rinkel. Se débarrasser du costume, disait, entendait-on à l'instant, pour se débarrasser du personnage. Bonne idée, Philippe Duclos?
Oui, c'est pas faux parce que le... Je vais prendre un exemple. En Grenache, ça se tournait une saison tous les 2 ans à peu près, donc c'est très lent.
Mmh.
Avais-je pensé à mon personnage pendant 2 ans? Bien sûr que non. Je sais pas. Mais j'ai un peu envie de dire aussi, c'est comme dans la vie, vous savez. On est amoureux, je sais pas, d'un homme ou d'une femme. Je veux dire, on vit avec, mettons. Quand on n'est pas ensemble, on va pas y penser tout le temps.
mais il est là, quelque part.
Mais on vit avec, voilà. Bah, je dirais, pour un acteur et un personnage, pour moi, c'est absolument la même chose. On vit avec. Et ce qui précipitait à nouveau, au bout de 2 ans, l'existence du personnage, c'est effectivement enfiler le costume. C'est le moment absolument déterminant. Le costume et le décor.
Je dois avouer aux auditeurs et auditrices que j'étais un peu déçue ce matin de vous voir arriver en jean et basket parce que le juge Roban jamais ne s'habille comme ça.
Et je sais pas si vous avez remarqué, j'ai quand même le même costume. J'ai eu le même costume pendant 15 ans. J'ai coûté cher à la production en ce qui concerne les costumes.
Blandine Rinkel, l'apparence aussi est affaire de romancière. Le costume.
Oui.
Imagine comment ils sont habillés, même si on n'écrit pas précisément la tenue dans ces romans.
Oui, alors je ne vais pas du tout répondre à votre question.
D'accord.
Parce que le costume, moi, me fait surtout penser à mon autre personnage, n'est-ce pas, dans la vie, qui est d'être musicienne.
Ouais. Dans le groupe Catastrophe.
Oui, et c'est vrai que le fait de revêtir une autre tenue, avant de monter sur scène, permet de se mettre quand même dans un personnage.
Il faut dire qu'il y a beaucoup de panache dans les tenues de Catastrophe.
Je sais pas, mais en tous les cas, c'est le fait de se changer qui fait qu'on revêt soudain une nouvelle personnalité. C'est assez évident, assez immédiat. Il y a quelque chose de presque magique. C'est un rituel, qui est presque, d'un ordre magique.
Les auditeurs et auditrices nous écrivent de très jolies choses sur le site et sur l'application France Inter. On s'attache aux personnages. On projette tellement de choses sur leur silence qu'on les remplit un peu nous-mêmes, écrit cet auditeur. Quelques personnages de fiction continuent d'exister. Pas les héros, pas les forts, mais ceux qui pourraient avoir des vies comme les nôtres, écrit-il. Effectivement, les personnages secondaires dont vous parliez tout à l'heure, Blandine Rinkel. Quand je lis un roman, souvent des policiers plus susceptibles de donner des personnages récurrents ou des sagas familiales, nous écrit Françoise, les personnages me reviennent en tête longtemps. Et quand je pense les avoir oubliés, je les retrouve avec plaisir en relisant ou en imaginant ce qu'ils feraient ou diraient dans telle ou telle situation. Ils deviennent comme des amis imaginaires. Est-ce quelque chose que vous faites tous les deux? Imaginez ce que ferait un personnage de fiction dans telle situation. Blandine Rinkel?
Tout à fait, ouais. C'est même, j'avais même nommé ça. Enfin, c'était chausser des lunettes. J'ai plus exactement l'expression. Mais c'est vraiment se dire dans n'importe quelle situation. Alors, c'est pas forcément les personnages, ça peut arriver que ce soit des personnages, parfois c'est des, chez moi c'est des, les écrivains aussi, mais que je considère que par exemple Virginia Woolf, c'est à la fois une écrivaine et un personnage.
Qu'est-ce qu'elle déciderait dans ma situation,
voilà,
par exemple.
Voilà, typiquement là, si elle était là, autour de nous, autour des micros, ben j'imagine tout de suite du coup des flux de conscience, je l'imagine regarder des micro-détails, là je vois Philippe Duclos qui a les mains sur sa bouche, elle parlerait de ça, enfin, et soudain ça change complètement la manière dont je vois telle ou telle situation. Et c'est assez galvanisant, surtout dans les cafés, soudain de passer comme ça, de se dire si on était tel personnage, ça change, ça recolore toute la moindre situation, la plus banale est recolorée.
Philippe Duclos, dites-moi si je me trompe, mais il me semble me souvenir que dans votre livre, vous dites vous interdire, en tout cas le comédien qui oui, parle dans ses livres, s'interdit de penser à ce que ferait le juge Roban dans telle situation.
Il dit ça ?
Je suis pas certaine, il me semble m'en souvenir. C'est dangereux en tout cas comme jeu.
Ah oui, il y a un moment où vous faites allusion, je pense, au moment où il prend sa place, c'est ça ?
Tout à fait.
Oui, d'accord. Ah oui, mais là, il devient l'acteur, il passe un peu les limites, là, à ce moment-là.
Voilà. Et on se demande si ça arrive à tous les acteurs et actrices, à vrai dire, de devenir ainsi,
C'est un danger.
D'être sur la crête.
Non, c'est un danger. Mmh. C'est ce qui m'amusait, ce qui m'intéressait pour écrire ce livre. C'est-à-dire, c'est de pointer tous les dangers, effectivement. Alors bon, on sait que, voilà, Marilyn, ça a fonctionné comme ça. Bon, elle s'échoue. Quand même, c'est quand même le passage par l'acteur studio pour elle a été quelque chose d'à la fois très magique parce que ça a produit des merveilles sur son jeu quoi, et en même temps ça a sûrement contribué aussi à la à ce qu'elle plonge par la suite. Donc c'est effectivement c'est dangereux de se prendre pour le personnage ou de se confondre. Ouais.
Puisque vous parlez de Marilyn Monroe, il y a dans votre livre de très belles réflexions sur le métier d'acteur, sur ce que c'est de jouer, d'incarner, d'interpréter. Et vous parlez notamment du degré zéro du mouvement expressif. Une expression signée Deleuze, voilà. Ça traverse votre réflexion sur le jeu d'acteur. De quoi s'agit-il précisément?
C'est une espèce d'état zéro.
C'est le rien.
Oui, c'est une espèce de rien ou d'état zéro d'où peuvent surgir absolument tous les affects. Alors, effectivement, je parle beaucoup des acteurs américains. C'est pas pour les fétichiser, parce qu'il y a des acteurs de français absolument géniaux. Mais j'en parle beaucoup parce que eux, alors effectivement, ça fait partie de leur méthode. Alors, je parle beaucoup d'Al Pacino, notamment. Ce qui est fascinant dans Al Pacino, c'est que quelle que soit l'exubérance de son jeu, il y a toujours une espèce de zone de calme dans laquelle il est. Un peu comme s'il était dans l'œil du cyclone, vous voyez. Mm-hmm. Ça tourne, le personnage, comme ça. Et en même temps, au centre, il y a une espèce de zone de je sais pas comment dire, de calme, de vacuité, que Deleuze appelle le degré zéro du mouvement expressif à Descartes. Et ça c'est effectivement un point tout à fait, pour moi, basique pour le jeu de l'acteur. Quoi. Sans ça, on ne peut pas jouer. Sans ça, on peut pas jouer.
Est-ce que c'est difficile à atteindre ?
Oui et non, j'en sais rien. On peut l'atteindre des fois très facilement parce qu'une situation, tout d'un coup, c'est comme quand on écrit, c'est pareil. Hein. Il y a des moments, ça devient très évident. Puis il y a des situations qui résistent. Alors là, c'est effectivement, on est un peu embarrassé. Non, c'est pas bon signe.
Alors le degré zéro du mouvement expressif, est-ce que ça parle à l'écrivaine, à la chanteuse, à celle qui monte sur scène, Blandine Rinquel?
Oui, je pense aussi à mon chien. Où les animaux sont en permanence fascinants quand on les regarde. Enfin, c'est des super comédiens malgré eux. Enfin, non, mais et je trouve que les comédiens qui parviennent à avoir cette espèce de pureté de jeu ou d'évidence canine, quoi, me paraissent être les meilleurs comédiens. C'est à ça que m'a fait penser l'expression.
Mais vous diriez que votre chien a ce degré zéro deleuzien?
Oui. Oui, très, très fréquemment. C'est un bulldog. Il est absolument dans le degré zéro deleuzien.
Acteur studio, le bulldog. Écoutons à nouveau un auditeur, si vous le voulez bien. Pierre nous a laissé une note vocale.
Moi, le personnage qui m'a énormément inspiré, hanté, c'est le personnage de John Steed dans la série Chapeau melon et bottes de cuir, que j'ai découvert quand j'étais petit, dans les années 90, alors que j'étais pas forcément, je pense, le public visé. C'est un personnage qui m'a énormément inspiré, qui est devenu quelque part une sorte de modèle d'identification. Un personnage complètement atypique, qui vit dans un univers complètement fantaisiste, où justement les personnages, quand ils disparaissent de la série ou quand la série s'arrête, c'est très en suspens. Et même si ça laisse un énorme vide, le côté très fantaisiste de la série faisait que de toute façon, le personnage reste un peu immortel.
Immortel, les personnages sont-ils des modèles, Blandine Rinquel?
Ils sont des modèles précisément parce qu'ils sont jamais, enfin, un personnage intéressant, enfin, selon moi, n'est jamais tout à fait ni moral ni immoral. Et donc, oui, en cela,
c'est la nuance. C'est, qui en fait des modèles.
Ouais, c'est des personnages intéressants. On aurait envie que toutes les personnes autour de nous soient comme ça, complexes. Voilà, nuancée, changeante. Enfin, c'est ça qui fait que les personnages restent aussi longtemps aussi, je pense. C'est parce qu'on sent toujours que ça veut en dire plus. Il y a plus à chercher, quoi. C'est ça qui fait que les personnages de fiction nous hantent.
Les prénoms sont un sujet important aussi pour la romancière que vous êtes. Votre dernier roman raconte un changement de prénom qui est aussi un changement d'identité. Est-ce qu'ils le sont aussi pour la lectrice? Est-ce qu'on s'attache différemment à un personnage en fonction de son prénom, Blandine Rinquel?
Ah, c'est une question difficile. Moi, j'ai tendance à écorcher les noms des personnages que je lis. J'ai tendance à réinventer leurs noms en les lisant. Donc souvent, quand j'en parle, je parle de telle lecture à un ami ou je me rends compte en fait que j'ai pas du tout enregistré le bon prénom. J'ai mal lu. J'ai une sorte de dyslexie. Et je me suis arrangée pour le lire autrement, quoi. Éponine, par exemple, dans Les Misérables.
Éponine Thénardier.
Ouais, que j'adore, qui est un personnage qui reste vraiment depuis l'adolescence en moi. Je l'ai longtemps appelée Apolline.
Bon, mais parce qu'Éponine, il faut dire qu'Éponine, c'est pas très fréquent prénom.
Non, non.
Et mais donc, Apolline lui va mieux, vous trouvez?
Pas du tout.
Non.
Non, non, mais c'est comme ça, c'était en moi comme ça, mais ce que ça montre sans doute, c'est quand même une volonté chaque fois de réécrire ce que je lis. Enfin, c'est marrant de se l'approprier.
Voici ce que nous écrit Clément sur le site de France Inter. Nous choisissons parfois comme prénom pour nos enfants le prénom d'un personnage qui nous a marqué. C'est d'une certaine façon faire vivre ces personnages. Je ne sais pas si vous connaissez la série Scam, l'un et l'autre. C'est une série adaptée d'un format norvégien dont la version française fait un carton auprès des jeunes adultes et des adolescents. 8 saisons diffusées sur France TV Slash. Et l'une des particularités de cette série, c'est que les personnages existent sur les réseaux sociaux. Ils ont chacun un compte Instagram, un compte Twitter, et leurs profils sont alimentés par des photos, par des vidéos en continu. Alors ce sont pas les comédiens et comédiennes, hein, bien sûr, qui alimentent ces comptes, c'est la production qui est en lien avec les scénaristes de la série, mais ça crée une complicité absolument vertigineuse entre le public et les personnages. Est-ce que vous aimeriez suivre Éponine Thénardier sur Instagram, Blandine Rinquel?
Absolument pas. Non, moi j'aime bien que mon imaginaire ne soit pas saturé d'informations.
Il faut qu'il reste du vide.
Du vide, de l'invisible, que ça travaille dans son esprit, quoi. C'est d'ailleurs pour ça, je pense, que je suis personnellement plus attachée aux personnages de livres, de romans, qu'aux personnages de films, parce que j'aime pas voir les visages. Enfin, j'aime pas. Si, j'aime beaucoup regarder des films, hein, mais les personnages me hantent moins une fois qu'on a vraiment mis un visage
dessus. C'est tout le problème des adaptations au cinéma des romans qu'on a aimés.
Bah, typiquement, Martin Eden, qui était joué par Luca Marinelli. Je l'imaginais pas aussi beau, ce Martin Eden.
Il était moins beau dans le roman de Jack London quand vous l'avez lu.
Ouais, et du coup, il était plus universel aussi. Enfin, je pouvais plus le... Alors que là, soudain, ça devient un Martin Eden quand même très, très, très exigeant et très... Je sais pas.
Philippe Duclos, le juge Roban n'aurait pas eu de compte Instagram, évidemment, mais cette idée de faire exister les personnages sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça vous inspire?
La même chose que Blandine. C'est pas une chose dont je rêve du tout, non. Mais j'aurais pas. Non, j'ai pas. Alors cela dit, il y a un site, je crois, juge Roban, le personnage. Mais j'y vais pas. Non, ça me. Non, j'ai trop fort à faire, moi. J'ai trop fort à faire avec lui.
Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a un peu de juge Roban dans tous les personnages que vous avez joués depuis, que vous jouez encore aujourd'hui, Philippe Duclos?
C'est une question terrible.
Je suis désolée.
Ben non, parce qu'on peut effectivement, on s'interroge là-dessus, se dire, ça m'a toujours fait peur parce que quand je joue par exemple, j'ai un rôle de meurtrier par exemple, un type qui je sais pas quoi, j'avais joué un rôle qui assassinait des jeunes filles, tout ça. Alors on ne peut pas ne pas se dire à un moment, mais si on m'a choisi pour jouer ce rôle-là, c'est que c'est possible. Enfin vous voyez, donc ça donne un frisson. Et donc on ne peut pas, je sais pas si tous les acteurs vivent ça, mais se demander s'il n'y a pas une espèce de fil rouge qui traverse tous les personnages qu'on a joués jusqu'à aujourd'hui. Bon voilà, c'est une rêverie. Mais je pense qu'il y a forcément quelque chose, puisque c'est moi qui les ai joués. Et il y a forcément un rapport entre le juge Robin et d'autres personnages.
Il reste forcément quelque chose. Et il est temps d'écouter Catastrophe, un extrait de Gong, dernier album du groupe de Blandine Rinquel. Vous écoutez L'été comme jamais sur France Inter. C'était Catastrophe sur France Inter. Blandine Rinquel, membre du groupe Catastrophe et romancière, est mon invitée avec le comédien Philippe Duclos. À l'été comme jamais, on aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent, leur cœur se balancer. Aussi, ai-je une dernière question à vous poser. J'aimerais connaître un sujet sur lequel vous avez changé d'avis. Blandine Rinquel.
Ça va être une réponse un peu... C'est un petit tour de passe-passe, une réponse un peu anecdotique, mais j'ai changé d'avis sur les pluies de Juillet.
Ah, elles vous plaisent finalement ?
En fait, j'ai vu un feu d'artifice avant-hier sous la pluie et j'en ai éprouvé une émotion inimaginable. Non, j'ai été très émue par la pluie de Juillet, donc j'attends avec impatience l'orage d'août.
Même question, Philippe Duclos. Sur quoi avez-vous changé d'avis ?
Tellement de choses. Mm. Bah, j'en parle sur Jean Gabin vieux, par exemple.
Alors, Jean Gabin vieux, qui ne jouait plus parce qu'il avait épuisé Jean Gabin. C'est ce que vous écrivez.
Oui, c'est ce qu'on dit. Mais c'est une bêtise sans nom, quoi. Donc, effectivement, Gabin vieux, j'ai toujours vécu en pensant qu'il était moins intéressant que Gabin jeune. Et donc, j'ai redécouvert, quand j'ai revu Gabin vieux, j'ai changé d'avis.
Voilà. Dans quel film, notamment ?
À tout, un peu tout,
toute la fin
les bons
carrière.
Et les moins bons, toute la fin de carrière, oui.
Merci beaucoup à tous les deux, Blandine Rinquel. Vos deux romans sont à lire chez Fayard, L'abandon des prétentions et Le non secret des choses. Prochain roman bientôt, non ? Oui ?
Si.
Okay. Catastrophe est en tournée le 21 juillet, je crois, aux Eurocéennes de Belfort. Toutes les infos à la page de L'été comme jamais sur le site d'Inter. Le juge et son fantôme de Philippe Duclos. C'est un livre captivant, journal intime fictif du juge Robin et réflexion sur le geste de l'acteur. Édition des Équateurs. Très bonne journée à vous, merci.
Bonne journée.
À bientôt sur Inter. Dans un instant, ce sera Charles Pépin sous le soleil de Platon. Bonjour Charles.
Bonjour.
Quel invité ce matin ?
Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir le réalisateur Michel Azanavicius, et on essaiera de se demander s'il est possible de se réinventer toute sa vie.
Demandez-lui comment est votre blanquette aussi, s'il vous plaît.
Ouais, d'accord.
Ce sera après le journal.